Bon, ben c'est la saison des tiques. C'est commencé la saison des tiques et qu'est-ce que tu veux? Elles sont de plus en plus présentes, elles s'étendent. Elles sont d'abord, présentes dans la Montérégie, en Estrie, mais on sait qu'on les a trouvées dans d'autres régions du Québec, notamment au Saguenay. On va aller rejoindre Amir Kadir, médecin, microbiologiste, infectiologue. Bonjour Amir.
Bonjour Bernard, comment allez-vous?
Ça va mon cher, ça va.
Merci d'accorder du temps pour ça à l'antenne.
Ben oui.
Je me rappelle qu'on avait eu déjà il y a 2 ans l'opportunité d'en parler longuement sur les ondes de ton émission.
Oui.
Mais c'est important d'y revenir chaque année, effectivement, surtout que ça prend de l'ampleur.
Bon voilà, ça en prend de l'ampleur. Est-ce que tu le remarques, toi, tu le constates?
Oui, absolument. Heureusement, à cause... essentiellement, il faut dire à cause du travail que l'association des patients eux-mêmes ont fait il y a à peu près 3 ans. Ils ont alerté les autorités de santé, mais aussi politiques, ramassé une pétition venue à l'Assemblée nationale. On en a parlé. Par la suite, il y a eu quand même, à l'initiative donc de l'Assemblée nationale, un mandat qui a été confié à l'Institut national d'excellence en santé, ce qu'on appelle l'INES, là, que tout le monde connaît maintenant à cause du COVID. Mm-hmm. Puis l'INES a produit quand même de la documentation, a fait des interventions auprès des médecins pour, disons, sensibiliser le corps médical pour réaliser que, contrairement à ce qu'on savait, lorsque, mettons, moi, j'ai été formé il y a une vingtaine d'années, quand j'ai fait ma spécialité, bien, à l'époque, le Lyme était presque inexistant au Québec. Et beaucoup de médecins, par la suite, sont restés sur la même impression. Or, la situation de l'évolution de l'écologie des tiques elles-mêmes, puis les changements climatiques, a fait que le foyer principal de cette maladie, qui était plutôt dans l'État du Connecticut, de New York, New Jersey, tout ça, sur 40 ans, s'est déplacé vers le nord à cause des changements climatiques.
Ben oui.
Donc, au Québec, c'est plus comme il y a 10 ou 15 ans où nous, les médecins, on croyait que ça n'existait pas ou ça ne traversait pas telle rivière. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Québec, il peut y avoir des tiques porteuses. Jusqu'à 20-25 % des tiques même peuvent être infectées. Dans certaines régions, ça atteint 50 % des tiques sont infectées.
Ça veut dire, si tu te fais piquer par la tique, si elle est porteuse de la bactérie...
Ben, elle peut le transmettre.
Elle peut te le transmettre. Bon.
Les tiques ne le transmettent pas à chaque coup. Ça, il faut le
dire. C'est ça.
Si on l'enlève assez tôt, il y a très peu de chances que ça transmette.
Alors, rappelle-nous à quoi ça ressemble la tique, là, parce que veux pas, t'es un parent, tu veux le savoir, là.
Ben, une tique, ça peut être très petit quand c'est l'état de nymphe, par exemple, souvent au mois de mai, qui est le début de cette transmission, de cette possibilité. C'est le stade de nymphe, donc une toute petite, presque une larve. Donc, c'est à peine visible et la plupart du temps, ça passe inaperçu. Ça devient plus visible lorsque la tique s'est attachée suffisamment longtemps pour s'engorger de sang. Dans ce temps-là, à ce moment-là, ce qu'on remarque, c'est comme une espèce de point noir ou bleu foncé, comme du sang ramassé là, dans une veine qui aurait éclaté. Donc, il faut se méfier et lorsque nos enfants jouent dehors, surtout partout où il y a des herbes hautes, d'accord? Mm-hmm. Dans toutes les régions du Québec, que ce soit dans les Laurentides, que ce soit en Montérégie, que ce soit en Beauce, etc., partout maintenant, on peut dire que ce risque existe. Et donc, lorsqu'on va se promener un après-midi où nos enfants jouent dans le gazon ou dans les herbes, il faut les vérifier. Il faut l'après-midi, le soir, quelqu'un, préférablement les parents, examine surtout les portions postérieures que les enfants ne voient pas eux-mêmes, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui est rattaché. À ce moment-là, l'enlever avec une pince.
L'enlever à angle droit pour s'assurer.
Avec une pince.
Une pince. Et là, on la met dans un petit contenant pour pouvoir la porter, non?
Effectivement. Ça nous aide à avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. Le fait de le rapporter dans une CLSC ou à l'accueil des hôpitaux pour le soumettre à un examen, peut grandement aider à la surveillance du territoire pour savoir quelles sont les tiques, quelle est l'activité des tiques sur notre territoire.
Et comment tu sais si la tique était porteuse de la bactérie ou pas, ou si elle l'a transmise ou pas?
Quand on reçoit une tique, d'abord on examine pour voir si c'est le genre de tique qui transporte la bactérie, parce que toutes les tiques ne transportent pas la bactérie. On a à peu près, je pense, 8 ou 12 espèces de tiques, là, je me souviens pas des provinces, dépendamment des provinces du Canada, on a plusieurs espèces de tiques, et il n'y en a que 2 en particulier qui le transportent, et une qui est prépondérante, qui s'appelle l'Ixodes capillaris. Donc, nous, en labo, mettons dans mon labo à moi, en premier lieu, on va regarder si c'est bel et bien un tique, puis c'est le type de tique qui peut transporter la bactérie. Et c'est le cas, on l'envoie au LSPQ qui ensuite fait des analyses moléculaires pour savoir si la tique était porteuse de la bactérie. Autrement dit, on retrouve la trace génétique, on détecte des portions du gène du tique par PCR.
Et si elle était porteuse de la bactérie, à ce moment-là, tu prescris un traitement aux antibiotiques?
Non. C'est là qu'il y a une nuance maintenant. Et l'INES, depuis 2 ans, fait beaucoup d'efforts auprès des médecins pour que ça soit clair. N'importe quelle personne, enfant ou adulte, chez qui une tique a été prélevée sur le corps, on n'attend pas de savoir si c'est la bonne tique ou pas, s'il y avait du Lyme dedans ou pas. Ça prend trop de temps. Et ça nous prive d'une fenêtre de traitement qui peut régler le problème sans se soucier. Autrement dit, n'importe quelle personne qui a une tique, à partir du moment où la tique a été prélevée sur une personne, on donne une dose de doxycycline, une double dose.
C'est un antibiotique, ça?
C'est un antibiotique. Okay. La dose habituelle est de 100 mg 2 fois par jour. Au lieu de ça, on donne une dose de 200 mg en un seul coup pour s'assurer qu'on tue la possibilité de l'infection dans l'œuf, autrement dit, avant que l'infection puisse se propager de la peau où elle s'introduit vers le reste des organes.
Et ça fonctionne à tout coup, Amir?
En principe, oui. Tous les médecins sont au courant maintenant que lorsqu'une tique est rapportée, prélevée sur le corps d'une personne, on donne immédiatement, sans se poser des questions, une dose de doxycycline. Puis après, on regarde est-ce que c'était infecté ou
d'accord,
pas.
D'accord.
Est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. Il faut dire, Bernard, que dans la biologie humaine comme animale, il n'y a rien de 100%.
D'accord.
Et dépendamment de la quantité de bactéries qui a été introduite par tel et tel tique, on peut imaginer qu'il y a des personnes que même lorsqu'ils ont enlevé le tique puis ils ont reçu la doxycycline en temps opportun, malheureusement, parfois, il y a des échappements et puis il peut y avoir des infections. D'où l'importance de surveiller. De surveiller. Allô?
On s'en va vers la conclusion, Amir.
Juste c'était pour dire
clair.
Donc qu'il faut
terminé.
Surveiller quand même les symptômes par la suite.
Amir Kadir, merci.
Merci, Bernard.
Salut, au revoir. La prochaine. Bon été. On s'en va à la pause. Luc Lavoie de l'autre côté.